France Inter.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. On dit d'eux qu'ils sont les meilleurs amis de l'homme. Derrière cette expression banale, presque usée pour décrire les chiens, se cache une vérité profonde. Les chiens ne se contentent pas d'en faire partie, ils transforment nos vies. Il y a d'abord cette fidélité inébranlable, cette capacité à aimer sans condition. Peu importe que la journée ait été mauvaise, que l'on soit d'humeur exécrable, un chien accueillera toujours son maître avec la même ferveur, la queue qui bat, les yeux qui pétillent, un rappel que malgré nos tempêtes, nous sommes aimés. Mais si l'homme est souvent celui qui adopte, qui recueille, le chien lui est bien souvent un héros du quotidien que l'on peut voir dans des reportages. Qu'il soit chien de sauvetage en montagne ou chien de la sécurité civile, en un aboiement, il ramène l'espoir là où tout semblait perdu. Mais loin des caméras, il y a d'autres sauvetages, plus intimes. Ces chiens d'assistance qui ouvrent des portes, ramassent des objets, sont capables de prévenir une crise d'épilepsie ou d'hypoglycémie, sont des héros invisibles qui changent littéralement la vie de ceux qui les accompagnent. Plus de la moitié des Français ayant un animal de compagnie ont choisi un chien, mais que sait-on vraiment d'eux ? Que ne connaît-on des traits de caractère inhérents à la race du chien que l'on adopte ? On répond à toutes ces questions et à toutes celles que vous voudrez bien nous poser par téléphone au 01 45 24 7000 ou par message sur l'appli Radio France. Nous sommes le jeudi 7 août. Grand bien vous fasse en direct tout l'été pour vous accompagner.
France Inter. Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis.
Qu'est-ce que tu fais? Mais lâche! Non! Tu la donne! Tu lâches! Oh. Donne! Hey, viens là! Hey, tu donnes! Hey. Viens!
Oh!
Viens
hey, là! Oh.
Quoi? Ah, je suis pas sûr.
Deux.
Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, ni la bonne façon pour parler au chien, tu vois.
Il m'a Est-ce pris tu... mon poulet!
Non, il t'a pas pris ton poulet! Il s'est servi en poulet! Excuse-moi, je pense pas que ce soit à toi ou à nous de les éduquer, mais plutôt à eux. Voilà, s'il y a quelqu'un qui sont chez eux ici, c'est pas nous. C'est bien eux. Ou nous. Alors,
quoi?
Ils sont arrivés sur Terre avant nous, jusqu'à preuve du contraire. Ils étaient là dès le début ou pas? Dès le début, hein?
C'est juste.
Donc, à la limite, toi, demande-lui l'autorisation si tu peux manger avec lui, si tu veux.
Alors, je suis pas sûr qu'il me réponde.
Bah si, bien sûr que les chiens peuvent répondre. Un extrait du film Problemos, Eric Judor en 2017. Alors nos trois invités ce matin sont convaincus que les chiens peuvent changer la vie des humains et qu'il est urgent de faire connaître leurs qualités intrinsèques. À commencer par vous, Claude Beata, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vétérinaire psychiatre et vous avez publié de nombreux ouvrages pour mieux comprendre les animaux, dont La psychologie des chiens, publié chez Odile Jacob. Et vous êtes l'un des rares vétérinaires spécialistes en médecine du comportement. De quoi s'agit-il en deux mots ?
En deux mots, il s'agit premièrement de reconnaître qu'il y a la possibilité d'une souffrance psychologique chez l'animal. Et deuxièmement, de faire passer le message primordial qu'on est capable de les soigner et de les aider dans ces cas-là. Parce qu'ils nous aident énormément et de temps en temps, ils ont besoin d'aide.
Et oui, c'est pas à sens unique. Bonjour Yolaine Delabigne.
Bonjour.
Vous êtes avec nous par téléphone aujourd'hui. Merci de prendre ce temps.
Hélas.
Oui, mais on serait très content quand même de vous entendre. Vous êtes journaliste, autrice et conférencière, amoureuse de la nature, c'est important, et des animaux. Vous vous consacrez aujourd'hui au sujet des intelligences animales à travers votre association L'Animal et l'Homme. Et vous avez dirigé l'ouvrage collectif L'Animal Médecin, publié chez Alizio et disponible en poche. Bonjour Maxime Chéron.
Bonjour.
Alors vous êtes infirmier à l'Institut Curie à Paris, un centre de recherche et de lutte contre le cancer. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous partagez la garde de Snoopy, le premier chien auxiliaire de soins en France. Vous partagez sa garde avec trois autres collègues et vous racontez cette incroyable aventure dans un livre. Snoopy, ce chien qui nous veut du bien, édité chez Solar. Alors on va développer ensemble ce projet que vous avez initié. Mais pour commencer, que pensez-vous du titre de cette émission ? Comment les chiens sauvent-ils nos vies ?
Comment les chiens sauvent-ils nos vies ? Je pense qu'ils les sauvent de différentes manières. Et du coup, nous, on le fait de manière assez simple, en faisant balader Snoopy et en ayant des interactions et des échanges entre les patients qui viennent effectivement pour passer des examens ou pour leur traitement anticancéreux. Et parfois, juste un regard, un échange, une caresse, ça change tout.
Ça change tout, on va voir ça ensemble. Claude Beata, vous êtes vétérinaire, on l'a dit. Le chien est de tous les animaux domestiques celui qu'on a l'impression de connaître le plus. C'est pas forcément vrai. Et grâce à cette émission ce matin, on va aller plus loin dans nos connaissances. Depuis quand le chien est aux côtés de l'homme ?
Depuis très très longtemps. Et ça fait une vraie différence, puisqu'on considère dans les dernières recherches, avant on considérait qu'il y avait une tombe où était enterrée une jeune fille avec son chien, moins 12 000 ans sur le site d'Aïn Nafala, c'est la civilisation pré-natufienne. Et les dernières, c'est des tombes, alors là pas ensemble, mais conjointes, c'est-à-dire côte à côte, moins 30 000 ans dans les régions de Sibérie. Là où c'est important, ces chiffres, c'est que moins 30 000, c'est 20 000 ans de plus que les autres domestications. Et on considère qu'en fait, le chien, ce n'est pas une vraie domestication. Ça a été une histoire entre les mères chiennes et les mères humaines qui se sont regardées, parce que les petits chiens et les petits humains, quand ils naissent, ne sont pas finis. Ils ont besoin d'être protégés. Et de localisations similaires. Et donc, on se regardait et il y a, dans les deux espèces, il y en a qui ont été intéressés par l'autre espèce. Et on parle plus aujourd'hui d'une coévolution, c'est-à-dire d'une codécision de vivre ensemble que d'une réelle domestication.
Violette
donc,
de la
ça veut
vie,
dire qu'il y a
pardon.
Vraiment une fusion depuis très longtemps.
Très longtemps, vous l'avez dit, 30 000 ans. Violette de la Bille, vous êtes avec nous ?
Oui, oui, je suis là, absolument. Je vois les paroles de Claude, parce que je trouve ça passionnant. Et puis je pense aussi, je ne sais pas si Claude est d'accord, mais il y avait le côté de la chasse. En fait, l'humain et le loup, ce sont deux prédateurs qui, a priori, sont concurrents, mais finalement, qui ne mangent pas tout à fait la même chose. Donc finalement, ça ils pouvaient se compléter et ils ont dû apprendre, entre guillemets, le mot est peut-être un peu fort, à chasser ensemble, non ?
Oui, alors oui, et en plus... Au départ, on pense que, vu ce qu'utilisaient les humains comme arme de chasse, ce loup-chien ne pouvait pas les aider beaucoup. Et moi, je suis persuadé qu'au départ, je l'avais dit dans le livre « Au risque d'aimer », au départ, c'est une histoire d'attachement déjà. C'est-à-dire, c'est une histoire de quand vous êtes dans la caverne et que dehors, il y a des tigres à dents de sabre, ben, c'est vachement bien d'avoir un chien avec vous, d'avoir quelqu'un qui peut grogner si quelque chose arrive et tout, qui peut alerter, mais qui surtout est là et vous rassure. Et je crois que l'histoire entre les chiens et les humains, bien sûr, et Maxima est là pour le montrer, il y a des tas de chiens utiles. Oui. Mais leur première utilité, c'est de nous aimer et de nous permettre de les aimer.
Alors pourtant, alors Yolaine Delabine, justement, cette relation entre l'homme et le chien, on a longtemps utilisé le chien pour ce qu'il pouvait nous apporter. Je pense aux chiens de troupeau, aux chiens de garde. Depuis quand on les considère comme un membre de la famille ?
Alors ça, c'est venu progressivement, mais c'est vrai que c'est une caractéristique de notre époque moderne, même si on continue quand même de se servir beaucoup des animaux et des chiens en particulier. Alors, c'est vrai qu'ils font partie de la famille, mais moi, c'est quelque chose qui me gêne toujours un peu beaucoup, c'est que parfois, on les aime, mais on les aime mal, c'est-à-dire qu'inconsciemment, on s'en sert pour flatter notre ego, pour, on le voit sur les réseaux sociaux, on les déguise, on les en fait, un chien, c'est très flatteur aussi, parce que c'est beau, parce que c'est fidèle, etc. Mais c'est vrai que vous avez raison, aujourd'hui, de plus en plus, il fait partie intégrante de la famille, au point parfois de remplacer l'enfant. On voit de plus en plus, Hélène Gâteau, la vétérinaire, a écrit un livre là-dessus. Oui. Voilà, de plus en plus de gens qui...
Hélène Gâteau, elle a choisi de ne pas avoir d'enfant, et elle a un chien.
À la colombe.
Exactement, exactement. Et il y en a beaucoup comme ça, mais je trouve que ça peut faire sourire ou ça peut choquer certains. Moi, ça ne me choque pas du tout, parce que je trouve qu'avoir des enfants, c'est formidable. Moi, j'en ai trois, donc je n'ai pas de soucis. Mais tout le monde n'est pas fait pour avoir des enfants. Et que quelqu'un se dise, j'ai pas envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir un chien, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même amour, ce n'est pas les mêmes relations, mais on doit tolérer ça, et je trouve que c'est plutôt sain d'ailleurs que chacun choisisse un peu les relations qu'il a envie d'avoir.
Mais évidemment, et de toute façon, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, et chacun ses choix. Alors qu'est-ce qui différencie le chien des autres animaux dans sa relation à l'homme, d'après vous ?
Alors, c'est... On l'a dit, la fidélité, mais ça, je pourrais le dire aussi des chevaux ou d'autres animaux. Il y a ce côté très protecteur qui est très qui vient un peu du côté animal de meute. En fait, quand on est avec son chien, on fait partie de la meute. À partir de là, il va nous protéger énormément depuis toujours. Mais il y a aussi une fois de plus qu'on peut trouver chez d'autres animaux, mais cette bienveillance incroyable du chien qui nous pardonne tout, quelque quoi qu'on ait fait, quel que soit ce qu'on est, l'humeur du jour, etc., il y a une bienveillance incroyable, une patience extraordinaire. Je trouve que les animaux et les chiens sont d'une patience incroyable avec nous. L'humilité, il nous apprend beaucoup l'humilité, nous qui avons toujours un petit peu tendance à avoir beaucoup d'ego, et cet amour inconditionnel qui est extraordinaire. Et puis, je dirais, cette joie de vivre. Moi, c'est ce que j'adore chez mes chiens. Un chien, c'est toujours heureux. C'est,
on voit en tout cas, vous ne manquez pas de, vous manquez pas d'adjectifs positif pour qualifier les chiens. Alors, pour nous aider à mieux décrypter nos amis les chiens, nous sommes allés tendre notre micro à quelques Parisiens pour leur demander ce que leur chien leur apporte. On les écoute.
Oui, j'ai un chien. Il s'appelle Val et c'est un petit cocker. Il a 8 mois.
C'est le 5e Jack Russell que j'ai.
Il s'appelle Petit Chien.
On part en vacances, on part beaucoup à la montagne avec elle ou à la mer.
J'aime bien lui apprendre des nouveaux tours. Assis, couché, debout, fait la belle, donne la patte, l'autre patte, tournée.
Ce que le chien m'apporte, de la mobilité.
Moi j'ai 28 ans et ma compagne a 29 ans, on n'a pas encore d'enfant, c'est aussi un entraînement.
Dès que j'ai une petite blessure, un petit bouton qui saigne, il vient le lécher pour prendre soin de moi.
Ils ont besoin de nous et ce que je trouve agréable, ils sont très constants dans leur affection.
Il est plus fidèle qu'un mec, plus fidèle que des amis.
Ah, plus fidèle qu'un mec, plus fidèle que des amis. Merci à Elina Garcia, Noelia Filiol et Léa Cor pour ce micro-trottoir. Claude Beata, les chiens ressentent-ils réellement l'état émotionnel de leur humain ?
Alors, je voulais juste préciser avant que malheureusement, les chiens ne sont pas toujours joyeux, ils ne sont pas toujours gais, ils ne sont pas toujours... parce qu'ils ont un cerveau, et que ce cerveau, il peut bien fonctionner et mal fonctionner. Et moi, mon métier, c'est de voir tous les chiens qui ne vont pas bien. Donc, quand j'entends Yolaine déclarer avec son enthousiasme habituel les chiens, bien sûr, et heureusement, mais il faut voir aussi que parfois, ils ne sont pas dans cet état-là, et qu'on peut les aider. Est-ce qu'ils ressentent nos émotions ? Bien sûr. Il y a une biologie de l'entre-deux. Je crois que le titre de votre émission, c'est « Comment les chiens nous sauvent-ils ?» Je vais vous raconter juste une anecdote. Une cliente me raconte que son chien lui a sauvé la vie en détectant son cancer. En fait, non, il n'a pas détecté son cancer, mais quand elle a eu sa première attaque de cancer, si on peut dire, son chien est devenu extrêmement triste. Donc elle s'est demandé pourquoi.
Parce qu'il ressentait ses émotions ?
Elle ne savait pas. Elle, d'un côté, elle avait son cancer, et d'un autre côté, son chien était triste. Bon, elle est soignée, je ne sais pas si c'était à l'Institut Curie, mais elle est soignée, elle est en rémission totale, elle fait sa visite au bout d'un an de rémission, on lui dit, vous êtes en parfaite rémission, il n'y a pas besoin de tout ça, et deux mois après, son chien redevient totalement triste. Elle retourne à l'hôpital en disant, je fais une récidive, ils lui disent, mais non, vous avez vu, il y a deux mois, il n'y a rien. Elle dit, mon chien, il a exactement la même attitude, je fais une récidive, ils font les tests, et elle faisait une récidive. Qui a permis, du coup, l'attitude du chien lui a permis d'être dépisté très très précocement.
Donc qu'est-ce qui leur permet d'être en connexion comme ça avec nous ?
Alors, ils sont à la fois en connexion émotionnelle, puis alors, la première des choses, c'est leur capacité sensorielle absolument extraordinaire, qui vont leur permettre de détecter des molécules qui peuvent prévenir de la crise d'hypoglycémie, de la survenue de la crise d'épilepsie, des produits chimiques qui sont émis au moment où il y a des cellules cancéreuses, et ils sont capables de les détecter à des niveaux où même beaucoup de machines n'y arrivent pas. Hein, donc là, le chien à côté, il est capable de faire ça, et il va donner le signal parce qu'il détecte ça sensoriellement, c'est juste une capacité extraordinaire qu'il a. Et puis à côté de ça, on est branché émotion, et donc effectivement, quand la maladie atteint notre humeur, eh ben, ça va avoir une répercussion sur l'humeur du chien, et donc on va se voir en miroir.
J'ai dit pas de chien, et quand je dis non, c'est non.
Yasmine nous glisse.
Je vous préviens, c'est pas moi qui m'en occupe. La gamelle, les crottes, les poils qui tombent, je vais pas en entendre parler.
Allez, Bill, on y va.
Grand bien vous fasse. T'es le chien de la famille maintenant.
Eh ben dis donc, pour quelqu'un qu'on voulait pas.
Sur France Inter.
Un chien comme un membre de la famille, ce chien au quotidien nous apporte énormément. Maxime Chéron, on l'a dit tout à l'heure, vous avez adopté Snoopy pour l'Institut Curie. Vous qui le voyez évoluer au sein de l'hôpital auprès des malades, vous voyez tout de suite le changement quand Snoopy arrive auprès des patients ?
Oui. Le changement, il est assez incroyable. Donc, tout simplement, quand on va passer dans les salles d'attente, on a souvent des patients qui sont là, effectivement, pour des examens, pour des attentes de résultats. Donc, ça peut être des moments qui sont assez angoissants, stressants. Et vous imaginez bien, on a tous attendu dans la salle d'attente où effectivement on a parfois une demi-heure, une heure de retard avec cette angoisse qui monte. Et le fait de venir avec Snoopy, c'est quelque chose de simple. Et la première chose que les patients se disent, c'est pourquoi un chien à l'hôpital ? Et tout de suite, en fait, on pense à autre chose que ce résultat, que cette maladie. Et effectivement, on passe d'une ambiance qui peut être assez pesante à quelque chose d'assez assez positif. Et voilà, c'est un petit éclairci dans la journée.
Il est accueilli de la même manière par les enfants, par exemple, que les personnes âgées ?
Ah ouais, c'est assez incroyable aussi. Donc par les enfants, vous imaginez bien, de toute manière, amener Snoopy en pédiatrie, c'est la mascotte, c'est la star. Donc tout se passe très très bien. Les personnes âgées aussi, j'ai d'autres expériences, d'autres exemples, où effectivement, quand on a des personnes de plus de 75 ans, 80 ans, c'est souvent une phase de notre vie où on passe des consultations de médecin en médecin et à la fin on en a marre. Mmh. Et parfois la communication entre le médecin et la personne âgée peut être un peu à l'arrêt. Et Snoopy justement va aider et favoriser la communication parce que forcément des patients qui ont 75-80 ans ont déjà eu des contacts avec des chats, des chiens ou le chien du voisin si jamais ils n'en ont pas eu. Et ça va être une ouverture et un facilitateur de communication. Voilà.
Yolaine Delabine, vous avez co-dirigé L'Animal Médecin, un travail sur la relation entre l'homme et l'animal. Qu'est-ce qu'il se passe dans notre corps quand on câline son chien ?
Alors, en tout cas, je voulais rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit sur l'incroyable aide au dialogue qu'est le chien. En médiation animale, où le chien est très utilisé, on a fait par exemple des expériences en Suisse où on a laissé à des détenus en prison assez sérieux, on va dire. C'était pas des enfants de cœur. On leur a proposé des chiens de refuge. Et en effet, ça a complètement changé le dialogue entre eux et avec leurs gardiens. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, ces chiens ont changé leur image qu'ils avaient vis-à-vis des autres et vis-à-vis d'eux-mêmes. Au lieu d'être juste des assassins ou des gens horribles, ils devenaient des amis de ces chiens. Ils discutaient, ils parlaient de croquettes, ils parlaient de choses à faire, etc. Et le dialogue était du coup beaucoup plus facile pour aider ces gens à retrouver un lien avec la société. Et c'est vrai que le chien là-dessus est absolument incroyable. Il nous aide énormément. Puis après, pour revenir à votre question, en effet, on sait qu'avoir un chien nous permet ça réduit le taux de cortisol, qui est le taux de l'anxiété et du stress. Ça augmente la dopamine quand on les caresse. De plus en plus, on commence à prouver les effets vraiment physiologiques qu'ont les animaux et le chien sur notre santé et notre état d'âme.
Oui, Claude Béata, vous voulez réagir ?
Juste pour compléter ce que dit Yolaine, il y a une expérience japonaise très très jolie qui a montré que quand un chien et son humain se regardent, l'ocytocine monte chez les deux. L'ocytocine, ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, hein, l'hormone de l'attachement. Donc, il y a une vraie biologie, hein, c'est-à-dire simplement le regard suffit à faire monter le taux d'ocytocine.
Pour l'un comme pour l'autre.
Pour l'un comme pour l'autre.
Est-ce que l'amour que porte le chien à son humain est un amour inconditionnel ?
Ben, je crois pas. Je suis désolé de mettre un peu de... Alors premièrement, il n'y a pas un chien, mais il y a des tas de chiens différents. Il y a des chiens qui... Il y a des chiens qui ont... Un chien qui va bien, quand il naît, il aime bien tout le monde. Et effectivement, cet amour va être assez inconditionnel. Dans ma position, je vois beaucoup de chiens qui n'ont pas eu cette chance-là et qui naissent avec une anxiété massive, où ils ont peur de tous les humains. Et donc là, souvent, ils vont se sauver en s'attachant à un humain ou à deux humains qui vont être leur bouée de sauvetage. Et là, ils nous sauvent, mais on les sauve aussi. Et il va falloir les aider à prendre confiance dans le reste du monde. Mais oui, à partir du moment où, en revanche, où on fait partie du groupe, généralement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconditionnel et de l'absence de jugement. Ce qui apaise tellement les gens, c'est qu'ils rentrent le soir, le chien ne leur demande pas si ça s'est bien passé au boulot, il ne leur demande pas s'ils n'ont pas été pas sympas, il les accueille, comme vous disiez, le regard... Il y a une splendeur du quotidien, quelque chose dans le quotidien qui vraiment est extraordinaire. Quand les gens arrivent, même en consultation, même quand c'est compliqué, ils s'assoient, et souvent les chiens s'assoient à côté d'eux, et ils sont contents l'un de l'autre, voyez, ça leur fait plaisir d'être l'un avec l'autre.
Maxime Chéron, vous partagez ce que dit Claude Béata, vous vivez avec Snoopy depuis 5 ans.
Oui, 4 ans. Oui. Effectivement, je partage totalement, et j'ai aussi des histoires comme cela avec les chiens. Par exemple, une personne qui se fait opérer, qui va rentrer à la maison et du coup qui va être forcément obligé de se reposer pendant plusieurs semaines. Toute la famille travaille, toute la famille va à l'école et la seule personne en fait qui est sur place, bah, c'est son animal de compagnie, que ce soit le chien ou le chat. Et bah, je pense que ça aide justement à se reconstruire, dans le sens où on va être obligé de se lever pour aller le sortir, pour aller le nourrir, tout ça, et je pense que ça aide justement pour ça.
Claude Beata, un chien, c'est un remède contre l'isolement, en fait?
Alors, certains chiens, la plupart des chiens, se remettent contre l'isolement. Vous parliez des personnes âgées.
Oui.
Je crois que la phrase que je redoutais le plus quand j'étais vétérinaire généraliste, c'est « j'ai plus le temps d'avoir un autre chien ». Quand j'arrive à 75 ans, 80 ans, si un chien s'habille 10-12 ans, peut-être je ne pourrais pas. On essaie de trouver des solutions pour qu'il puisse avoir, parce qu'effectivement, si on a un chien, on doit sortir. Donc il y a des tas d'études qui ont montré, par exemple, sur les accidents en cardiaque, eh ben, les gens qui ont un chien, ils ont un meilleur taux de rémission et de récupération, parce qu'ils sortent, parce que ça va retisser du lien social, etc. À part quand, par exemple, on a un chien très agressif et que ben là, du coup, ça isole et que la famille ne vient plus vous voir parce que le chien est agressif. Et juste un mot pour les soignants, parce que de temps en temps, dans le fameux cas où la personne revient et est alitée chez elle, eh ben, y a quelques chiens qui ne sont pas très faciles avec les soignants, parce que dans leur volonté de protéger absolument la personne, moi, il m'arrive assez régulièrement de soigner des chiens qui empêchent tout le monde de s'approcher à la personne malade. Mmh. Et donc, ce n'est pas facile pour les infirmiers, notamment.
On va s'intéresser du coup, Maxime Chéron, à l'histoire de l'adoption de Snoopy. Vous partagez sa garde avec trois autres collègues, je crois.
Cinq en tout.
Et comment vous est venue cette idée d'adopter un chien pour l'Institut ?
Alors, comment ça nous est venu ? En fait, donc, tout le monde sait qu'il y a eu la période Covid, où ça a été dur pour les soignants. Et au fur et à mesure du temps, on s'imaginait en fait, avoir un chien dans l'équipe qu'on avait surnommé Toutouf. Et voilà, on s'imaginait ça et la fin du Covid...
Ça n'existait pas ailleurs ?
Non. On s'imaginait un chien, pardon, et la direction est venue nous voir à la fin du Covid en nous demandant si l'équipe allait bien. On est une petite équipe où on s'entend extrêmement bien. Et à la fin, la direction nous a demandé qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre service. Et est sortie l'idée d'avoir un chien. On s'attendait forcément à avoir un non tout de suite. Mmh. Et finalement, il y a eu cette réflexion de cette réponse qui a été « Pourquoi pas, je réfléchis, je reviens vers vous ». Donc du coup, ça a été
une ouverture.
On est revenu vers nous juste après en nous disant « Pas de problème pour avoir un chien. Par contre, vous construisez un projet parce qu'avoir un chien, pour avoir un chien à l'hôpital, non. Par contre, vous essayez de nous construire un projet. » Donc on a construit un projet autour de Snoopy. Et notre objectif, c'est effectivement de mesurer l'impact d'un chien en milieu hospitalier. Donc on est en train de construire tout ça. En tout cas,
l'impact, vous l'avez mesuré, il est réel. Vous êtes organisé pour la vie de Snoopy. Il a une grande famille, entre vous cinq, et il partage sa vie comme un enfant en garde alternée, finalement.
Tout à fait. Donc, on est cinq référents. Malheureusement, il y en a une qui ne peut pas le garder parce que Snoopy aime un peu trop les chats et qu'elle est propriétaire d'un chat. Mais elle nous aide au quotidien pour aller pour toutes les interactions. Et ensuite, nous sommes quatre. Où on s'alterne effectivement sur un agenda pour la garde de Snoopy, et j'aime bien comparer ça parce que je suis moi-même enfant de parents divorcés, où effectivement c'est une garde partagée entre parents divorcés. Donc là on est quatre, donc on va dire qu'il y a les parents et les grands-parents, donc chacun...
C'est une famille recomposée, et puis lui il a pris ses marques, ses repères chez les uns, chez les autres. Alors Claude Beata, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas un chien, c'est des races différentes, c'est des caractères qui sont différents, mais est-ce que quelque soit leur race, ils ont des besoins fondamentaux.
Ah oui, alors, puis je vous remercie de me poser cette question, parce que pour nous, la race, en fait, elle a très très peu d'importance. J'aime bien que beaucoup de gens qui ne pensent pas, mais je crois que votre chien est un setter.
Oui.
Je pense que si on avait demandé à 100 personnes qu'est-ce que vous prendrez comme chien de médiation, c'est à peu près la dernière race qui serait venue, parce qu'ils sont réputés très actifs, etc. En fait, les caractéristiques de race, globalement, n'existent pas. À l'intérieur de chaque race, on a toutes les variétés de chiens. Hein. Donc ça, c'est très important, parce que quand même, on dit beaucoup de choses. C'est ce qui n'est pas vrai pour la race, c'est vrai pour la lignée. C'est-à-dire qu'il y a des familles chez les setters, il y a des familles chez les Malinois qui peuvent poser plus de problèmes que les autres. Mais c'est une question de famille, c'est pas une question de race. Et je pense que dans l'époque actuelle, c'est important à souligner. Les besoins fondamentaux, c'est une espèce sociale. et donc elle a besoin de relations. Et donc, de temps en temps, on est très étonné quand, par exemple, certaines associations de protection animale ne donnent pas de chiens parce qu'on n'a pas de jardin. Mmh. Mais les chiens, ils s'en moquent des jardins. Hein, les chiens, ce qu'ils veulent, c'est de la relation sociale. Moi, je préfère 100 fois un chien qui vit en appartement, qui est sorti 4 fois par jour, 20 minutes ou 40 minutes, qui a du contact avec son propriétaire, qui joue avec son propriétaire, qu'un chien qui a un pavillon et un jardin où il ne voit personne dans son jardin. Parce que ça, c'est une vraie situation de maltraitance. D'accord ?
Yolaine donc... Delabine, vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, je suis complètement d'accord avec ce que dit Claude et je suis très contente qu'ils le disent parce qu'en effet, moi j'ai des bergers belges par exemple. Donc, les bergers belges, c'est les Grenendals, les Malinois, etc., qui sont considérés comme des chiens un peu difficiles, ce qui est faux, c'est des chiens formidables. Et en effet, j'ai un jardin et ils sont tout le temps glués avec moi. Ils ne me quittent pas parce que les chiens ont besoin d'être avec vous. Et j'ai des voisins qui ont des jardins où les chiens sont tout seuls. Et ils s'ennuient, ils fuguent, etc. Donc, c'est très important de dire qu'on peut avoir un appartement et un chien si on s'en occupe, si on balade, si on a des relations, si on joue avec lui, etc. Et puis, par rapport à ce que disait tout à l'heure Claude, il a raison sur l'amour inconditionnel. C'est vrai que j'ai un peu tendance toujours à idéaliser, etc. Mais il y a quelque chose dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est la force de pardon des chiens. Je trouve que les chiens, quand même, ont une capacité à nous pardonner, à nous aimer comme nous sommes, que je trouve assez extraordinaire et qui nous donne de belles leçons d'amour et d'humilité. Je ne sais pas si Claude est d'accord.
Alors, si vous me permettez rapidement, effectivement, grosse différence avec le chat. Hein, dans mon livre La folie des chats, j'avais beaucoup insisté là-dessus. Les chats, c'est une espèce non sociale. Ils n'ont pas de capacité de réconciliation et de collaboration. Ils sont pas prévus pour ça. Hein. Donc il faut faire très attention à pas se fâcher avec un chat, parce que ça peut être définitif.
Alors que le chien,
espèce sociale, a des phénomènes de réconciliation prévus, et on les voit très régulièrement, hein, comme dans toutes les espèces sociales. Bah, entre chiens, on peut se bagarrer, hein, ça, pour un os, pour une femelle, pour des tas de choses, on peut se bagarrer, et puis tout de suite après, c'est souvent assez rapidement après, on va se renifler le museau, on va se renifler les fesses.
On pardonne, quoi.
On va recommencer à jouer, et hop, la relation est repartie.
C'est pas meublé ? Ah ben, l'ancien directeur, il est parti avec. Hein.
Yasmine Ouglis.
Pourquoi il est parti avec les meubles ?
Parce que j'ai peut-être les chiens.
Quels chiens ?
Les meubles. Grand bien vous fasse.
Les meubles chez les chiens.
Les meubles chez les chiens, mais qu'est-ce que les chiens foutent avec des meubles ?
Sur France Inter.
Ah, les siens, pas les chiens ! Les siens !
Ouais, les chiens, c'est ça.
Si la présence d'un chien heureux au sein d'une famille apporte de la joie à tous ceux qui vivent à ses côtés, pour certaines familles, leur chien est bien plus qu'un membre supplémentaire. Il est parfois l'aidant grâce à qui on peut retrouver l'autonomie. On va évoquer l'histoire singulière de Snoopy, le premier chien auxiliaire de soins en France. Maxime Chéron, on parle de Snoopy depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Alors oui, Snoopy, c'est un setter que nous avons récupéré du coup à la SPA de Pornic, à l'âge de 2 ans. On nous a été... effectivement, on est parti le chercher avec ma collègue Marguerite. On ne l'a pas sélectionné comme ça, au hasard. D'une part, on voulait un chien qui soit pas trop petit, pour pas que tout le monde puisse le prendre dans les bras, pas trop gros, pour que tout le monde ne puisse pas en avoir peur, entre guillemets. Et on s'est fait aider aussi d'une éducatrice cadine pour le choix du chien, parce que ce qu'on voulait, c'était aussi un chien qui soit au contact, qui aime le contact des humains. On est parti le chercher, on l'a vu à la SPA, tout de suite on a craqué, on est reparti avec. Ça, c'était courant décembre, juste avant Noël. Il est resté après pendant 3 mois avec Marguerite pour qu'il puisse s'adapter aussi à la vie parisienne. Il y avait plein de petites questions comme ça sur est-ce qu'il va accepter son métier ? Est-ce qu'il va aimer sa nouvelle vie ? Et finalement, tout s'est bien passé et ça se passe extrêmement bien.
Alors, vous êtes formé à ses côtés, vous avez appris à le connaître. Aujourd'hui, il fait partie de la vie de l'hôpital. J'imagine qu'il ne déambule pas dans les couloirs librement. Quelles règles il a dû intégrer pour être compatible avec cet environnement où chaque microbe est un danger ?
Alors, avant tout, je voudrais dire que nous, ce qui nous importe pour Snoopy, c'est son bien-être. Et que tous les quatre, nous avons aussi passé une formation qui s'appelle la cassette pour, justement, c'est le premier niveau de formation, vous me dites si je me trompe, hein. Mais c'était important pour nous pour qu'on puisse identifier les moments où il est fatigué et, effectivement, si on le trouve fatigué, quoi qu'il arrive, il n'ira pas faire d'interaction. La deuxième chose, c'est effectivement, on est dans un hôpital, donc il ne peut pas aller n'importe où. Bien évidemment, au bloc opératoire, interdit. L'objectif, c'était qu'il puisse déambuler dans les couloirs, qu'il évite d'aller dans les chambres, qu'il évite d'aller aussi au contact des patients qui sont immunodéprimés. Donc son lieu de balade, entre guillemets, c'est les couloirs et aussi ce qu'on appelle le salon des familles. C'est des endroits où effectivement les familles et le patient peuvent se rencontrer et c'est des endroits où on fait des interactions justement avec Snoopy, les patients et les soignants. Si
et ce sont des moments choisis dans lesquels il est accompagné donc, hein.
Toujours.
Alors, on a un message d'Anne qui dit « Je comprends parfaitement que l'animal fasse du bien, mais le chien, comment il vit son métier ?»
Alors, il le vit extrêmement bien. Il a une routine hein, quand même, donc c'est-à-dire que le matin, je prends mon exemple, le matin, moi j'habite à peu près à 40 minutes à pied de l'hôpital, donc je viens avec lui à pied, donc il a déjà une grande balade. Ensuite, il a encore une autre balade à 10 heures. Ensuite, on va déjeuner dans un petit jardin à Curie, où là, effectivement, il est lâché et il peut s'amuser pendant pratiquement 3 quarts d'heure. Ensuite, il est relâché à 15 heures et ensuite, il y a le retour à la maison avec encore une balade de 40-45 minutes. Son métier, je trouve qu'il l'accepte plutôt bien. Il est content d'y aller. Effectivement, il remue la queue. il est content d'aller au contact des gens. Et c'est pour ça qu'il est aussi apprécié par les patients, je pense.
Alors, dans le livre que vous avez coécrit avec, avec vos collègues, vous racontez l'histoire. En fait, chaque médecin, chaque membre de l'unité qui a coécrit ce livre raconte des anecdotes. Il y a celle de Madame E, elle est âgée, fatiguée par des traitements sans fin et anxieuse lorsqu'elle doit venir à l'hôpital, à l'Institut tous les 6 mois. Et depuis que Snoopy est arrivé, elle n'est pas juste ravie de le voir. C'est comme si elle en avait besoin. Pour certains patients, ça devient une béquille.
Effectivement, ça devient aussi source de négociation. C'est-à-dire que si jamais Snoopy n'est pas là, le patient ne veut pas venir.
Ah.
donc voilà. Non, c'est. Je pense qu'effectivement, c'est un lien qui se crée aussi avec le patient, parce que effectivement, il ne va pas le voir peut-être pendant une semaine, un mois, et il va se passer plein d'événements pendant cette période de temps. Et justement, ça va être un échange qui va se faire entre nous, soignants, et la patiente. Et ça va permettre aussi de penser et de discuter d'autre chose que de la maladie.
On comprend bien le bien-être qu'il apporte à vos patients. Yolaine Delabigne, je sais que vous allez être d'accord pour vous intéresser à Snoopy et à comment lui ressent les choses. Est-ce que c'est possible que lui soit très touché par la maladie des patients qu'il rencontre?
Ah, alors ça, c'est une question difficile parce que je ne suis pas psychologue pour chien, donc peut-être que Claude Beata pourra aussi répondre. Moi, je pense que oui. Je pense que le chien ressent énormément nos humeurs et a une compassion qui fait que bah justement, tout cet amour qu'il nous donne vient de là. Et puis, j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'odorat des chiens. Ce sont quand même des athlètes du flair. Hein. Je regardais justement avant de préparer avant cette émission qu'il peut détecter 500 000 odeurs différentes, alors que nous, on en détecte 4 000. Donc, je pense que à travers ce flair incroyable, ils doivent sentir des choses très fines qui se passent dans notre corps, puisqu'en fait, toutes nos humeurs se répercutent dans notre corps. Donc, notre façon de transpirer, notre cœur qui bat, nos émotions, etc. Donc c'est un roi pour sentir nos émotions et du coup il a une intelligence émotionnelle qui nous aide énormément.
Cette intelligence émotionnelle, elle est mise à notre service bien souvent. Il faut savoir qu'il y a 2500 chiens d'assistance aujourd'hui qui accompagnent des personnes en situation de handicap visuel, auditif, moteur. Certains peuvent même aider les personnes diabétiques à détecter grâce à leur flair, une crise d'hyperglycémie.
La solution pour identifier les crises, c'est de se fier au flair d'un chien. Grâce à son odorat 10 000 fois plus sensible que celui de l'homme et une année d'entraînement, Achou est capable de détecter l'arrivée d'une crise.
Alors on sait que les chiens sont capables de sentir une odeur, on le sait parce qu'on l'a testé dans une expérience, mais on n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils sentent. Donc si Louan fait une crise, Achou a appris à aller immédiatement trouver un des parents et les poquer pour les prévenir qu'il se passe quelque chose.
Achou sait aussi donner l'alerte si les parents de Louan ne sont pas à côté et apporte une trousse de secours en cas d'importante hypoglycémie.
Alors c'est un reportage de la Maison des Maternelles pour France Télévisions en 2020. Claude Beata, qu'est-ce qui permet aux chiens de détecter une crise d'hypoglycémie ?
Les émanations deviennent plus sucrées, etc. Pour eux, ça, c'est très facile, même. On avait travaillé au sein de l'association Zoopsie, on a fait toute une journée de réflexion sur est-ce que ces chiens-là, qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est-ce que c'est acceptable, finalement, hein? Parce que, eux, pour le coup, Snoopy, manifestement, il est super bien traité, il a des vacances, il part au bord de la mer et tout, mais un chien qui fait ça, il travaille tout le temps. Et, en fait, il ne travaille pas. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas plus qu'un parent travaille au contact de son enfant ou il prend soin de quelqu'un qu'il aime. Ce qui fait, pourquoi les chiens nous sauvent ? Ils nous sauvent parce qu'ils nous aiment. Et quand on crée comme ça un lien entre un petit garçon ou une petite fille et son chien d'assistance qui va surveiller sa glycémie, il n'est pas là en se disant « je surveille la glycémie ». Il est là en se disant « je suis avec mon être d'attachement, je suis avec la personne que j'aime ». Et d'un seul coup, il y a un signal dangereux et je vais prévenir quelqu'un. Celui-ci va chercher les parents. Il y en a d'autres qui appuient sur un bouton pour dire « toc, il se passe quelque chose ». Et donc, heureusement, on peut dire que ces chiens-là ne travaillent pas 24 heures, sinon ça ne serait pas acceptable. Simplement, ils sont au contact de quelqu'un qu'ils aiment et qu'ils veulent protéger.
Et c'est grâce à certains de leurs sens qui sont hyper développés qu'ils peuvent nous aider.
C'est ce qu'a dit Yolène, c'est exactement ça. Ils sont des champions de l'odorat, peuvent détecter des choses. Même un confrère qui avait entraîné des chiens à diagnostiquer le Covid, ils étaient bien meilleurs que les tests. Donc le cancer, vraiment sur des tas de choses. Après, il suffit de savoir qu'est-ce qu'il faut chercher. Eux, ils peuvent le trouver très facilement.
Est-ce que tous les chiens sont capables d'être des chiens d'assistance ?
Alors, une fois de plus, il n'y a pas de question de race. Et après, il y a une question de motivation. Il y a des chiens que ça va peu intéresser, puis des chiens que ça va beaucoup intéresser. Même parfois dans la même portée, il y a des chiens qui n'ont pas la même attention aux humains. Vous avez des chiens, ils arrivent, ils regardent tout ce que font les humains, ils sont hyper intéressés, ils cherchent à comprendre ce qui se passe. Il y en a d'autres, ils sont plus dans leur monde de chiens. Donc vraiment, mais oui, sensoriellement, à peu près tous les chiens sont équipés pour pouvoir diagnostiquer, pour pouvoir trouver ce genre de molécules, bien sûr.
C'est marrant parce que pourtant, en fait, là, vous dites que ce n'est pas selon les races. Or, souvent, maintenant, dans les médias, on entend parler de comportement en regard de la race de l'animal. Ça, ce n'est pas vrai ?
Ah, pour moi, ce n'est pas vrai du tout. Et c'est très dangereux. Parce que comme vétérinaire psychiatre, si on me dit le comportement est lié à la race, en ce moment, par exemple, il y a un problème avec les Malinois. Yolène, vous devez bien connaître ça. Il y a même des associations qui demandent qu'il y ait des interdictions sur les Malinois. Mais ce n'est pas les Malinois qui posent problème. C'est certaines familles de Malinois. Et élevées d'une certaine façon. Et sinon, il y a d'autres bergers belges, d'autres Malinois qui sont parfaitement aimables, parfaitement contrôlés, etc. Mais il y a des familles entières, des lignées entières qui ont été déstructurées, qui sont devenues des hyperactifs incroyables. Alors, cela, on peut les soigner. Mais ce n'est pas une question de race. Il faut faire très attention à ça. Pour moi, je crois que vraiment, c'est une ligne rouge la race, parce que sinon, pourquoi ça serait
c'est
pas
c'est très important de dire ça parce que c'est pas le discours qu'on entend forcément.
Mais oui, ça fait juste 30 ans que je me bats contre ça.
Ce serait une question d'éducation de la part de leurs maîtres, de leurs éleveurs.
Il y a de l'éducation, il y a de la personnalité. Il y a évidemment, par exemple, les chiens de berger. Alors plus large que la race, les chiens de berger, on les soigne souvent pour des maladies anxieuses, pour des maladies de l'hypervigilance. Parce que quand on est chien de berger, on a été sélectionné depuis des siècles pour être vigilant. Et donc, entre être vigilant et être hyper vigilant, c'est pas très loin. Mais les bergers blancs suisses, les bergers malinois, les bergers australiens, les border collies, tous ces chiens de berger, ils partagent cette vulnérabilité à l'anxiété. D'accord, c'est pas une question de race.
Bien sûr, c'est très important de le dire. Yolène Delabine, je pense que vous voulez réagir.
Oui, je suis absolument d'accord avec ce que dit Claude, parce que moi j'ai des bergers belges et ce sont souvent des chiens qui ont été aussi un peu, entre guillemets, abîmés par les humains. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement forcés. Moi j'en avais eu un, par exemple, que mon père m'avait offert, un malinois. Toute sa vie, il a été dans une cage parce que son père était un champion, donc il voulait, l'éleveur voulait surtout pas. C'est le seul chien d'éleveur que j'ai eu parce que sinon j'ai toujours eu des chiens de refuge. Et les autres chiens de refuge sont un petit peu comme ça. C'est-à-dire que ce sont des chiens qui ont, comme ils ont une certaine valeur, on les pousse à devenir de très bons gardiens, à faire de l'attaque, etc. Et du coup, ce sont des chiens merveilleux qui ont un cœur énorme et qui sont particulièrement intelligents. Donc, je trouve, moi, assez facile à éduquer par rapport à d'autres. Alors, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais parce qu'ils sont tellement intelligents que si vous arrivez à peu près à vous en sortir, ils vont comprendre les choses. Mais c'est vrai qu'ils sont souvent abîmés par l'excès de tâches qu'on leur demande. D'ailleurs, ce sont souvent des chiens de sécurité, ce sont les chiens de l'armée, ce sont des chiens qui font des choses, qui risquent leur vie, et qui font des choses souvent remarquables, mais extrêmement difficiles. Donc, en fait, ils ont des vies très dures, et après, on s'étonne qu'ils aient des angoisses. Mais c'est pas tellement les chiens, c'est la vie qu'on leur fait mener.
Oui, il faudrait vraiment beaucoup plus s'intéresser à leur bien-être, et que la relation aille dans les deux sens. Alors, je tiens à préciser quand même, on a entendu tout à l'heure un extrait de la maison des maternelles sur les chiens d'assistance pour les personnes diabétiques. Vous qui nous écoutez, si vous ou une personne de votre entourage est diabétique et aurait besoin d'un chien d'assistance, vous pouvez contacter l'ACADIA, l'association pour les chiens d'assistance médicale pour les personnes diabétiques. Voilà pour l'information.
Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis sur France Inter.
Ce matin, on parle des chiens comme rarement à la radio. Vous êtes toujours avec nous dans Grand Bien Vous Fasse. C'est un sujet qui vous fait réagir. On a reçu plein de messages, notamment alors Marie-Odile qui nous dit « J'ai eu un spitz allemand. C'est lui qui m'a signifié que j'étais enceinte pour mes 3 grossesses. Il avait l'habitude tous les soirs de sauter sur le lit et de faire l'andouille. Et un soir, il ne m'a pas sauté dessus. Il s'est allongé à côté de moi. J'ai trouvé ça bizarre comme changement. J'ai tout de suite su que j'étais enceinte. Le lendemain, le test était positif. » Voilà, ils ont des super pouvoirs. Ils ressentent énormément de choses. On l'a dit, le chien, il est synonyme de joie. C'est un nouveau membre de la famille pour ceux qui font le choix de l'adopter. Mais il faut se poser les bonnes questions.
Doucement, Lise Maggie.
Quel conseil je donnerais ? Ben, de ne pas l'abandonner.
Ah, je dirais de bien réfléchir, hein, parce qu'il faut sortir à 6h du matin, ensuite tous les 4h, les 4-5h, et jusqu'à 22h. Hein.
Beaucoup de patience, parce qu'au début, il ne va pas être propre. Il faut utiliser beaucoup les récompenses aussi.
Un chien, ça coûte 1 500 € l'année à peu près.
S'armer de patience et de sopalin. Ça sert à rien d'engueuler un chien si on le prend pas sur le fait, quoi.
Chaque chien a son caractère.
C'est lui qui me donne envie de vivre en ce moment.
Alors, on a entendu les bonnes questions à se poser selon les Parisiens que nous avons interrogés. Alors, si les chiens sont les animaux de compagnie préférés des Français, on va quand même se dire que l'été, c'est une période, malheureusement, où de nombreux Français abandonnent leur animal. En 2024, la SPA a recueilli pas moins de 12 253 chiens. Yolaine Delabigne, est-ce que vous avez une explication à ça ?
La méconnaissance, d'ailleurs, en général...
La méconnaissance, vous dites
Oui, ils sont abandonnés parce qu'ils aboient, parce qu'ils font pipi, enfin, tout ce qu'on vient d'entendre. Donc, moi, il y a une seule chose, un seul vraiment conseil que je donnerais, c'est si vous avez un chien et que vous ne savez plus quoi faire, allez voir un professionnel, un comportementaliste. Le Malinois dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai été voir un comportementaliste parce que j'étais dépassée. Il m'a expliqué des tas de choses et ça s'est merveilleusement bien passé. Il est mort à 13 ans de sa belle vieillesse. Allez voir un professionnel pour vous aider, vraiment, c'est important.
Quand on est en difficulté, on va voir un professionnel. Claude Beata, avant d'adopter un chien, quelles questions on doit se poser ?
Deux précisions, il y a plus de chats que de chiens maintenant, beaucoup plus. Hein.
Qui sont abandonnés ?
Ah non, qui, comme animal de compagnie, 16 millions de chats pour 9 millions de chiens. Hein, donc, et alors c'est une question très difficile, les bonnes questions avant de se prendre. Parce que si on le fait rationnellement, si on se pose toutes les questions, est-ce qu'on fait des enfants, est-ce qu'on prend des chiens ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que bien
sûr... Mais visiblement, on abandonne facilement les chiens.
Donc... Oui, on abandonne facilement les chiens, mais pas tant que ça, finalement. Heureusement, bien sûr, la SPA, les associations, leurs refuges sont submergés, il faut aller chercher des chiens dans les refuges. C'est épouvantable, cette idée de « on part en vacances, on n'a pas de solution pour le chien, alors on l'abandonne ». Je ne peux pas vous dire ici tout le mal que j'en pense. D'accord ? Et évidemment, moi, je suis de l'autre côté, c'est-à-dire je vois les gens qui font tellement de choses pour leurs chiens. Je ne veux pas qu'on jette trop l'opprobre non plus sur les propriétaires, parce que moi je vois des propriétaires incroyables qui gardent des chiens alors qu'ils leur cassent tout à la maison, qu'ils ont eu des milliers d'euros de dégâts et qui vont faire tout ce qu'il faut pour les chiens. La bonne question c'est est-ce que j'en ai vraiment envie et est-ce que j'ai vraiment le temps ? Parce que ça, c'est une question de temps. Il y avait la FACO, qui est une organisation qui fait des études comme ça, avait montré que les gens passent en moyenne un peu moins de 5 minutes par jour avec leur chien. C'est pas possible. Le chien, c'est un animal social. Quand j'entendais la vie de Snoopy, je me dis, mais Snoopy, il travaille pas. C'est un chien super heureux, il se balade 5 fois par jour, il a une vie de chien rêvé. Hein. Un chien, il a besoin de... C'est pas qu'il a besoin de beaucoup de temps, mais il a besoin de temps de qualité, de temps avec des interactions, de temps avec du jeu, du temps avec de la relation sociale et du temps avec de l'attachement. D'accord ? Et ça, ça prend pas non plus des heures. Mais on peut pas, si on n'a pas de temps, si on n'a pas de... C'est compliqué d'avoir un chien. Mais on peut avoir un grand chien en appartement, si on le sort. Il y a des choses qui sont dites qui sont fausses. Et il faut vraiment dire, ce qui est important, c'est est-ce que vous en avez envie et est-ce que vous avez du temps. Et est-ce que vous êtes prêt, comme disait le monsieur, je le prends, il ne va pas être propre. Donc il va falloir passer 2-3 mois, peut-être avec la serpillière. Il peut détruire quelques petits trucs, ça c'est possible. Mais en tout cas, et Yolaine l'a dit, c'est important, si ça se passe mal, c'est pas normal. Et donc, on est là pour les aider. Il y a des vétérinaires psychiatres et vétérinaires comportementalistes. Il y a des éducateurs comportementalistes de très bonne qualité. N'abandonnez pas les chiens, faites-vous aider.
Maxime Chéron, Snoopy est en vacances ?
Oui, tout à fait. Là, il est parti au bord de la mer. De temps en temps aussi, on se fait aider par notre psychologue du travail, avec qui il s'entend très très bien. Et il nous a aussi beaucoup aidé dans le projet, Monsieur Papon, qu'on remercie d'ailleurs. Et effectivement, là, il est au bord de la mer parce que effectivement, le bien-être pour Snoopy, c'est aussi extrêmement important pour nous. Il travaille beaucoup. Il travaille du lundi au vendredi et il a aussi le droit à ses vacances et aussi le droit à son repos.
Merci beaucoup. On embrasse Snoopy et son propriétaire du moment, celui qui le garde. On profite de cette émission ce matin, docteur, pour alerter sur une épidémie de parvovirose qui sévit actuellement dans le Puy-de-Dôme. Rapidement, comment protéger son chien ?
Là, ça peut vraiment, il ne faut pas le laisser sortir dans les endroits où il peut y avoir des excréments d'autres chiens.
Ah oui, c'est ça
donc,
qui...
Ça, c'est compliqué parce que les chiens adorent mettre leur nez dans les déjections. Donc, il faut vraiment le protéger et vérifier les endroits où on le pose, surtout s'il est jeune et qu'il n'a pas été protégé. Après, la bonne façon de le protéger, c'est de le vacciner le plus rapidement possible.
Merci pour ce conseil précieux à nos auditeurs. Un grand merci à vous trois d'être venus nous éclairer sur tout ce que les chiens ont comme trésor et qui ne demandent qu'à partager avec nous pour le meilleur et pour le pire. Yolaine Delabigne, on peut retrouver votre ouvrage collectif avec l'association L'Homme et l'Animal, ça s'appelle L'Animal Médecin et c'est disponible en poche. Mais on peut vous retrouver, vous, du 22 au 24 août au parc animalier de Branferré pour les rencontres des intelligences animales. Claude Beata, on peut retrouver votre expertise des animaux dans vos différents ouvrages. En ce qui concerne les chiens, la psychologie des chiens est disponible chez Odile Jacob, mais je cite votre dernier ouvrage, La folie des chats. Maxime Chéron, le livre que vous avez coécrit avec l'ensemble de l'unité plaie et cicatrisation de l'Institut Curie. Snoopy, ce chien qui fait du bien, est disponible chez Solar.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.